Ce matin, alors le froid ne me fait pas peur, rassurez-vous. Que vous dire si ce n'est, c'est vraiment une grâce pour moi d'être au Canada. Il y a 20 ans, je suis venu au Canada, à Montréal. Je venais de me faire poignarder à plusieurs reprises. J'avais échappé de très peu à la mort. J'étais en pleine dépression et j'ai passé mon temps au Canada à me défoncer la tête à l'alcool et à la drogue. Et franchement, si on m'avait dit qu'un jour j'allais revenir au Canada pour pouvoir partager mon témoignage à l'église Nouvelle Vie et également en prison, j'aurais dit « c'est pas possible ». Mais le mot « impossible » n'existe pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de « tout est possible ». Et donc, je suis avec vous et toute la semaine prochaine, je serai là aussi, en tout cas pour visiter une prison. Nous avons lancé un projet qui s'appelle Un livre, un détenu en France et dans les dom-tom. L'objectif, la vision de ce projet est d'offrir mon livre témoignage aux 79 000 détenus de France et dans les dom-tom. Et des aumôniers donc, ont vu ce projet et ont voulu essayer de le mettre en place sur le Canada. Et donc, j'ai commencé à échanger et nous avons déjà amorcé de la distribution. Et j'ai eu une autorisation pour visiter les prisons pendant 2 ans. Alors, je vous explique et après, vous allez remercier Dieu. J'ai été incarcéré dans une affaire criminelle, donc déchu de mes droits civiques. Ça veut dire que je n'avais même pas le droit de voter. Mon casier est long comme le bras. Et quand je vois ce que Dieu fait, quand je vois les portes des pénitenciers s'ouvrir, je me dis, c'est pas humain, c'est divin. En réalité, pour tout vous dire et pour rien vous cacher, je n'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Souvent dans les églises, on vient me voir, mais où est ton église, pasteur? J'ai dit, ben ça en prison. Et mes détenus sont tous incarcérés, mais attention, ils ont donné leur vie à Jésus et ils sont libres. Et j'ai visité tellement de prisons. Tiens, dernièrement, j'étais à la plus grande prison d'Europe, à Fleury-Mérogis, région parisienne. Et donc, en entrant dans cette prison, dans un amphithéâtre, il y a plein de gens qui sont là, des détenus. Et puis, il y a un rasta qui s'appelle Polo qui scande mon nom. Yanis, 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 Yanis. Je me dis, mince, mais qui m'a reconnu dans cet endroit? Pourtant, c'est la première fois que j'y mets les pieds. Et plus je m'approche de la personne, plus je m'aperçois que c'est Polo. Et l'image est là. Et Polo et moi, c'est une histoire qui remonte 17 années en arrière. À l'époque où on se côtoyait, Polo, c'était un rasta indigent qui vivait dans la cave, et moi, le plus gros dealer du quartier. D'ailleurs, il n'était pas rare que Polo sorte de sa cave pour me demander de quoi fumer. Et comme il sentait extrêmement mauvais, je lui donnais rapidement une boulette de cannabis en lui disant « Polo, rentre dans ta cave, tu vas faire fuir ma clientèle ». Et là, Polo, dans cette prison, il est aux aguets, il est heureux, il a le sourire jusqu'aux oreilles, il insiste pour que je vienne à ses côtés. Je sais ce qu'il est en train de se dire. Chouette, Yanis est de nouveau en prison. Je sais qu'il a de la drogue avec lui, il va me donner de quoi fumer dans ma cellule. Alors je m'approche de lui, je le salue, et il me dit « Yanis, vas-y, raconte-moi, mais qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise pour être en prison ?» Je lui dis « Non, Polo, aujourd'hui c'est moi l'invité, c'est moi l'orateur. » Et il me regarde avec ses yeux rouges, il fait la grimace, il ne me croit absolument pas, et il me dit « Yanis, non mais sérieux, depuis que je te connais, tu n'as jamais respecté qui que ce soit et je m'aperçois que tu ne respectes même pas Dieu. Allez, assieds-toi, on va écouter le sermon du pasteur. » Ok, je prends place aux côtés de Polo et pendant que nous sommes en train de danser, de chanter, il me tape à l'épaule et me glisse délicatement à l'oreille. « Yanis, j'ai oublié de te demander, t'as du cannabis avec toi ?» Et à la fin, le pasteur dit « Voilà, aujourd'hui, nous avons un invité spécial, quelqu'un qui a connu le milieu carcéral et qui va venir vous témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. J'ai nommé Yanis Gauthier. » Je me lève, je m'approche et je commence à raconter ma vie à tous les détenus qui sont là. Je commence à leur raconter comment Dieu est venu à ma rencontre, comment Dieu m'a libéré de prison, comment Dieu a reconstruit ma vie. Et à la fin, je fais un appel. Je dis haut et fort, et il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut confier sa vie à Jésus. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses péchés. Il y a peut-être quelqu'un qui veut s'approcher du Seigneur. Tous les détenus se lèvent et s'approchent. Et c'est au tour de Paulo. Il est en larmes, il est effondré. Et il me dit, Yanis, tu sais quoi ? Lorsque j'étais enfant, j'allais à l'église. J'allais à l'école du dimanche. Le soir, c'est mon père qui me racontait les histoires de la Bible afin de m'endormir. C'était tellement beau, c'était tellement chouette. Mais à un moment donné, Yanis, j'ai commencé à faire des bêtises. Et à force de les accumuler, j'ai vraiment cru que Dieu était en colère contre moi. Alors j'ai fermé ma Bible, j'ai tourné le dos à Dieu, croyant fermement qu'un jour, la main de Dieu allait venir me frapper, me châtier, tellement j'étais mauvais, tellement j'étais mauvais. Mais en entendant ton témoignage, Yanis, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Ouais, parce que moi, je sais quel type d'individu tu étais. Tu étais bien plus méchant que moi. Tu étais bien plus mauvais que moi. Alors là, sur ma chaise, je me suis dit, mais ce n'est pas croyable, ce n'est pas pensable. Mais si Dieu a pu changer quelqu'un comme toi, si Dieu a pu pardonner quelqu'un comme toi, il peut me pardonner et il peut changer ma vie. Et là, Paulo, dans cette prison, a renoué un contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu te dire ce matin que les mains de Dieu sont une véritable usine de recyclage. La Bible dit dans 1 Samuel 2, verset 8, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. » Oui, Dieu pose sa main sur les gens qu'on a exclus, parfois qualifiés comme des rebuts de la société. Dieu pose sa main sur eux, et quand Dieu pose sa main sur eux, c'est leur vie toute entière qui est transformée. J'aimerais te dire qu'il n'y a personne comme Jésus. Tu as bien fait de venir ce matin. Et ça, tu peux le dire à ton voisin. Tu as bien fait d'être là ce matin. Ce que j'aime bien dans les églises, c'est qu'il y a toujours une horloge sous les yeux du prédicateur. Elle est là. Quand j'ai su que votre pasteur était suisse, je me suis dit, certainement, il va me parler de l'heure. Et effectivement, à chaque fois qu'on a discuté, il m'a parlé de l'heure, du temps qu'il m'accordait. Quand vous êtes en France, on vous donne parfois 20 minutes, 30 minutes. Lorsque vous êtes en Afrique, on vous donne 3, 4 heures. Prêche, mon frère, prêche. En réalité, de toute façon, comme j'aime à le dire, en France, on a l'heure, en Afrique, on a le temps. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il n'y a pas de montre dans le royaume de Dieu. Il n'y a même pas une Rolex, pasteur. Rien. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ce matin, tu es au bon moment, au bon endroit, et je crois fermement que c'est le temps de Dieu pour toi. Dis à ton voisin, c'est le temps de Dieu pour toi. J'aimerais introduire le partage de ce matin par un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Il est dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a des projets pour toi, il a des projets de paix, il a un avenir pour toi. Les projets de Dieu, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si vous m'aviez dit cette parole il y a quelques années, je vous aurais dit non, ce n'est pas vrai. Peut-être que Dieu a des projets pour vous, mais les projets qu'il a réservés pour moi ne sont que des projets de malheur, de tristesse et de désarroi. En réalité, pendant un certain temps de ma vie, j'ai cru que Dieu m'avait placé sur la terre pour vivre l'enfer, pour mordre la poussière. Et j'avais toutes les raisons d'y croire. Toutes les raisons de croire que Dieu m'avait pris pour cible. Je suis le fruit d'un adultère. Comme on me l'a dit, un accident. Sur mon acte de naissance, il y a marqué « père inconnu ». Mes parents se sont rencontrés dans une boîte de nuit. Leur relation n'a duré que le temps de ma conception. Avant ma naissance, mon père avait déjà quitté ma mère. Et nous sommes dans les années 70. L'avortement en France est interdit. Ma mère est issue d'une famille catholique et elle se retrouve enceinte. Elle n'est pas mariée. Alors elle va se cacher. Chez elle, elle est considérée comme une paria. Elle se cache dans une chambre de bonne et me donne naissance. Plein mois de décembre, elle sort de l'hôpital avec un petit bébé qu'elle a enveloppé d'un drap. Oui, dans ce drap, il y a un bébé qui n'est pas noir, qui n'est pas blanc, qui est métisse. C'est un croisé. Et ça, elle ne peut pas le supporter. En réalité, à cet instant, elle réalise que je vais être un fardeau pour elle. Alors, elle me dépose aux services sociaux, comme on met un sac dans une poubelle. À partir de là, c'en est terminé. Fini de ma mère. Mon père, peut-être saisi par les remords, prend la décision de me récupérer. Il m'introduit dans sa famille et là, je fais la connaissance de sa femme, Mireille, et de mon grand frère, Franck. Mon père, c'est quelqu'un qui a une vie particulière. Il arrive de la Côte d'Ivoire après 11 jours de bateau. Il n'a pas de diplôme, pas d'argent. Mais ce qui est important pour lui, c'est d'entrer en France, un pays qui, à ses yeux, représente la terre promise, l'endroit où il va enfin devenir quelqu'un. Par le biais de sa conjointe, il contracte un crédit et il ouvre une boutique de prêt-à-porter. Mais son problème à mon père, c'est qu'il confond fâcheusement recettes et bénéfices. Son argent, il le dilapide avec ses amis le soir dans les boîtes de nuit à s'éclater jusqu'au petit matin. Et à un moment donné, il est pourchassé par les créanciers, plie bagage et prend la fuite pour la Côte d'Ivoire. Ma belle-mère est criblée de dettes. Si elle me garde avec elle, c'est simplement parce que je représente une allocation familiale. Nous sommes relogés à la Courneuve, au 4000, une véritable prison à ciel ouvert où les gens urinent et jettent leurs ordures par les fenêtres. Très vite, eh bien, pour pallier à nos besoins, ma belle-mère prend un abonnement au Secours catholique pour avoir de quoi manger, de quoi nous vêtir. Et très vite également, elle va me faire sentir que je n'ai pas ma place au sein du foyer. Chaque jour, quand elle rentre du travail, c'est sur mon petit corps qu'elle déverse ses colères. Parfois, c'est la simple gifle, mais la plupart du temps, c'est les coups de poing, les coups de bâton, les coups de ceinture, les coups de fil électrique. Il arrive à ma belle-mère de me lever la nuit, de me sortir de ma chambre, de m'amener dans la salle de bain, de fermer la porte à double tour et de me défoncer la tête, de me l'acheter contre les murs, de me cracher au visage, de m'enfoncer ses ongles en insultant mon père et ma mère pour le mal qu'ils lui ont fait. Chaque jour, j'ai le droit à des insultes. Elle me rabaisse, me qualifie de déficient, d'erreur, d'accident, de tous les noms. Et lorsque je vais à l'école, je fais face à la misère sociale. La cité, c'est une prison. Je vois des toxicomanes complètement défoncés à la drogue. Le soir, c'est la police qui rentre dans le quartier. Je me souviens de ce jour où je suis en train de faire une bonne partie de football avec mes camarades et un voisin qui en a assez de nous entendre ouvre sa fenêtre, sort son fusil et tire une balle au hasard. Et c'est mon copain Toufik qui est touché en pleine poitrine et qui meurt quelques minutes plus tard sous mes yeux. Je ne suis pas un enfant méchant, mais je vais devenir méchant par nécessité. Quand je vois un jeune de mon âge qui a de l'argent dans les poches et que ça fait des jours que je n'ai pas mangé, je vis cela comme une injustice et je me donne le droit de lui prendre son argent. Quand je vois un jeune de mon âge qui a un beau blouson et que j'ai froid en hiver, je me donne le droit de lui prendre son manteau. Quand je vois un jeune qui a des belles baskets et je regarde mes paumes trouées, je me donne le droit de lui prendre ses chaussures. Et un jour, pas de chance, je me fais arrêter. Je me retrouve dans le bureau d'un juge d'instruction. Et la seule solution qu'elle va trouver pour résoudre mes problèmes socio-familiales, c'est de m'expédier tout droit en prison. J'ai 15 ans et pour la première fois, je mets les pieds dans une maison d'arrêt. Je suis le plus jeune de la prison. J'ai le droit à quelques attentions, quelques avantages. J'ai 3 repas par jour, j'ai un matelas, une couverture pour dormir, j'ai la télé dans la cellule. Bref, je suis mieux qu'à la maison. Et puis, ce qu'on dit à propos de la prison dans la cité, c'est que c'est une école. C'est par là qu'il faut passer pour devenir quelqu'un. Oui, la prison, c'est l'école, la faculté de la délinquance. Alors, je ne prends pas mon incarcération comme une punition, bien au contraire, mais comme une véritable opportunité pour évoluer dans le monde de la délinquance. Car pour moi, voler, c'était la seule solution pour me sortir de ma misère, de ma galère. Le temps va passer et je vais devenir un voleur, un escroc, un revendeur de drogue. Je vais créer des filières dans Amsterdam, au Maroc, recruter des personnes qui vont vendre de la drogue pour moi partout, dans les boîtes de nuit, dans les cités, dans les bars, bref. Et mon train de vie va changer du tout au tout. Désormais, j'ai de l'argent dans les poches, j'ai des beaux habits, je roule en belle voiture. Et pour moi, c'est une belle revanche sur la vie. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Je sais que je suis différent des autres. Je n'ai pas la joie d'avoir une famille. Pas la joie d'avoir un père, une mère à mes côtés. Alors, pour combler cette tristesse que personne ne saurait voir, eh bien, je me mets à me droguer, à boire de l'alcool, à me déconnecter la tête à coups d'extasie. Et en fait, ça va être un véritable piège, parce qu'il n'y a que lorsque je suis sous l'effet de ce poison que je me sens vivre, exister. Et je me rappelle ce jour où je suis dans une chambre d'hôtel. J'ai 20 ans et j'ai une pleine vue sur ma vie. Et elle se résume à un seul mot, supplice. Et là, j'ai envie d'en finir. En réalité, je crois que Dieu m'a placé sur la terre pour vivre ce type de vie. Je crois que Dieu m'appelle à mourir à 20 ans, comme mes potes. Alors, je prends une lame de couteau et toute la matinée, je vais poser cette lame sur mon bras en essayant de trouver la force de me sectionner les artères. Pas avoir la force d'aller jusqu'au bout. Pas avoir la force de mettre fin à mes jours. Mais toujours est-il que je vais me taillader le bras. Je vais me mutiler le bras. Je vais m'infliger une punition, celle que la vie représente à mes yeux. Après quoi, je vais adopter un comportement autodestructeur vis-à-vis de ma propre personne. Aucune limite, aucune limite. J'attends la mort. J'attends la mort. J'aimerais vous partager une vérité qui est tellement importante, tellement belle, tellement grande, tellement riche, tellement profonde. C'est celle-ci. Dieu vous aime. Lorsque pour la première fois j'entends ces mots, le contexte ne s'y prête pas. C'est ma conjointe qui est enceinte avec laquelle j'ai 2 enfants qui vient me voir en prison et me dit à moi que Dieu m'aime. La réalité, c'est que ce n'est pas possible. Je suis là pour plusieurs vols à main armée, j'encours une peine de 20 ans et elle vient me voir pour me dire que Dieu, il m'aime. Au fur et à mesure de nos parloirs, je réalise une chose, une vérité qui me saute aux yeux. Mais cette femme, elle m'aime. Parce qu'avant, les gens qui gravitaient autour de moi, ils m'aimaient pour ce que je possédais. Mais là, dans cette prison, je ne suis plus rien, je n'ai plus rien dans les poches, je n'ai plus rien à offrir. Et elle est encore là. Oui, c'est la seule personne qui est là pour moi. C'est la seule personne qui m'écrit des lettres, qui m'aide à tenir pendant ces longues nuits d'hiver. C'est la seule personne qui prend mon linge, qui le lave, qui met un peu de parfum dessus afin que je sente bon dans cette prison. C'est la seule personne qui s'intéresse à moi. C'est la seule personne qui me rattache à un semblant de vie. Oui, Manu, elle m'aime. Mais Manu, elle a un problème. Il faut toujours qu'elle me parle de Dieu. Et ça m'énerve. Je me revois encore ce jour au parloir où elle me rabâche encore que Dieu m'aime. Et cette fois, j'ai envie de la faire taire à tout jamais. J'ai envie qu'elle puisse voir la vie comme moi je la vois, comme moi je la conçois. Alors je me lève sous les yeux des enfants, je la prends par le col pour lui rappeler quelques vérités. Hé, Manu, comment tu oses me dire à moi que Dieu m'aime? T'es gonflé quand même. Manu, j'encours une peine de 20 ans, Manu, 20 ans. C'est là, entre 4 murs, au milieu des rats et des cafards, que je fais des câlins à mes bébés, Manu. Toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? Mon père m'a abandonné, ma mère m'a abandonné. Toute ma vie, Manu, j'ai galéré, j'ai souffert, j'ai fait les poubelles pour manger. J'ai dormi dans des trains, dans des bâtiments pendant des mois, Manu. Toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? Manu, quand j'étais enfant et que je dormais dans une cave sur un carton, après que ma belle-mère m'ait défoncé la tête à coups de poing, le seul être vivant, Manu, qui était là pour essuyer mes larmes. Entends-le bien, Manu, le seul être vivant qui était là pour me donner de l'attention, de l'amour, de l'affection. C'est mon chien, Manu. Mon chien m'a aimé plus que l'homme. Et toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime, Manu. Dieu ne m'aime pas. Parce que si Dieu m'avait aimé un seul instant, jamais, jamais, il n'aurait permis tout cela. J'étais enfermé, endurci. Comme les psychiatres disaient à mon sujet, j'étais mort intérieurement. Je n'avais pas d'émotion, pas de sentiment, rien. Mais ce que j'ignorais, c'est que Manu, tous les jours, elle levait la main vers Dieu. Chaque jour, elle fléchissait le genou devant Dieu, suppliant Dieu de venir intervenir, suppliant Dieu de venir parler à mon cœur. Et ça, je l'ignorais jusqu'à ce soir où je suis dans ma cellule en train de faire les 400 pas. Je pense à mon état. Je me sens misérable. Et là, c'est comme si Dieu était présent. C'est comme si Dieu se révélait à moi. C'est comme si Dieu venait parler à mon cœur en me disant, « Yanis, mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime ?» Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime ? Toute la nuit, j'ai entendu ces paroles marteler mon cœur, ma conscience. Le lendemain, j'avais parloir avec Manu. En entendant dans le parloir, je regarde Manu et c'est comme si un voile était ôté de mes yeux. Je réalise qu'à cause de moi, cette femme, elle a été roulée dans la boue, dans la poussière, elle est devenue la risée de toute sa famille. Ouais, cette femme prenait son bus avec ses enfants et qui descendait à la station Maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Au regard de tous, elle a accepté d'endurer tout ça parce que dans son cœur, elle était absolument convaincue que Dieu était capable de faire quelque chose pour moi. Regarde cette femme qui a accepté qu'on fouille les couches de ses bébés. Lorsqu'elle me rendait visite en prison pour voir si elle n'y cachait pas de la drogue, je la regarde dans les yeux et je lui dis, Manu, est-ce que ton Jésus il peut faire quelque chose pour un pauvre pécheur comme moi? Est-ce qu'il le peut? Et là, elle se met à pleurer, m'ouvre son cœur et me livre son secret. Yanis, il y a tellement longtemps que je pleure devant Dieu pour voir ce jour. Il y a tellement longtemps que j'attends ce jour. Aujourd'hui, Dieu a entendu la voix de mes larmes et il vient d'exaucer mes prières. Pendant 2 jours, j'ai ressenti une paix, une joie qui ne dépendait pas des circonstances. Et puis, c'est comme si l'adversaire de mon âme, l'accusateur, mettait une glace sous mes yeux pour me dire « Regarde qui tu es, tu n'es qu'un voleur. Tes parents n'ont pas voulu de toi, la société n'a pas voulu de toi. Tu es enfermé dans cette prison avec des gens qui te ressemblent, avec tout ce que tu as fait. Tu crois que Dieu peut pardonner quelqu'un comme toi ? Tu crois que Dieu peut pardonner quelqu'un comme toi ? Tu crois qu'un simple pas vers lui va effacer ta dette, tu es coupable et tu vas payer. Tu vas payer. Je vais répéter des choses qu'on m'avait dit toute ma vie. Toute ma vie. Croiser la route d'un aumônier à qui j'ai demandé une Bible. Cette Bible, il va la déposer sur la table de ma cellule. Et elle va rester ici, fermée, pendant 2 jours. Je vais la regarder. Pendant 2 heures, je vais l'observer, sans la toucher, sans l'ouvrir, sans la lire. Vous savez, quand ma belle-mère rentrait du travail, imprégnée de colère et qu'elle trouvait une assiette qui n'était pas lavée ou le ménage qui n'était pas fait, j'avais le droit à mes coups. En fait, on m'a toujours réprimé dans ma vie, même lorsque j'ai volé un bout de pain pour manger. Je me suis retrouvé devant un juge. Ça n'a pas été le pardon, ça a été la prison. La prison, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de compassion, c'est la punition. Alors, je suis conscient que Dieu peut me pardonner, mais dans mon fort intérieur, je me dis, il faut certainement qu'il me réprime avant de me pardonner. C'est trop facile. Il faut que je paye quelque chose. Il faut qu'il me cogne, il faut qu'il me frappe. Et après, il va me pardonner. Alors, je regarde cette Bible et j'attends que Dieu vienne me frapper. Je mérite mes coups. Je les mérite. Je suis en prison, j'ai ces barreaux sous mes yeux qui me renvoient à tout ce que j'ai fait de mal à la société. Je pense à mes gamins que j'ai abandonnés, à tout le monde à qui j'ai fait du mal. Je mérite que Dieu me frappe. Je mérite qu'il me frappe. Alors j'attends mes coups. J'attends mes coups. Je me sens tellement sale, tellement coupable, tellement laid, tellement hideux, misérable. Mais Dieu ne va pas me frapper, mais va me révéler son amour. Au travers d'une parole, qui se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 3 au verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Au travers de cette parole, Dieu va me révéler son amour. Et à partir de cet instant, il était impossible pour moi d'être délogé de l'amour de Dieu. Et comme j'aime à le dire que c'est, oui, c'est dans cette prison, là, au milieu des rats et des cafards que j'ai expérimenté l'amour de Dieu. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Oui, dans cette prison, la grâce de Dieu est venue abonder dans ma vie. Alors que je vais rappeler l'équipe de louanges. Je voudrais vous dire que les miracles ne s'expliquent pas. Ils se vivent, ils s'expérimentent. Il n'y a pas de formule pour expérimenter un miracle. Dieu déclenche le miracle dans la vie de ses enfants lorsqu'il le souhaite, quand il le veut. Et je vais en vivre un. On arrive au 7e mois de mon incarcération. Dernière grosse semaine de grossesse de Manu. J'aurais tellement voulu être là. Nous sommes là au parloir. On prie pour ces moments. J'aurais voulu être là. Je n'avais pas été présent pour la naissance des deux premiers. J'aurais tellement voulu l'accompagner, lui tirer la main et lui dire « Chérie, épouse. » Alors que je regagne ma cellule, le directeur demande à me voir, il m'accueille, il est en colère, il est furax. Il me dit « Des gens comme vous, on les garde au chaud ici, vous êtes un criminel, quelqu'un de dangereux pour la société. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur le juge ?» Monsieur le directeur, plutôt. Et là, il me dit « Bah, moi, ça fait 20 ans que je travaille ici. » Et je dois dire que je n'ai jamais vu ça. Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il me fait montrer une feuille, il me dit « Voilà, j'ai reçu ce fax de la juge d'instruction. Elle a décidé de vous libérer. » Faites votre pactage, rentrez chez vous. Quand j'entends ça, je lui dis, monsieur, il y a une erreur. Je suis Yanis Gauthier, matricule 52 964. Je suis là pour 3 vols à main armée, j'encours une peine de 20 ans. Ça fait que 7 mois que je suis en prison, c'est ce qu'on fait pour un vol de voiture. Il y a forcément une erreur, monsieur. Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème? Vous voulez rester avec nous? Ça va, je vais rentrer à la maison. J'arrive à la maison, je sonne. Manu m'accueille. Les enfants, nous allons dans le salon, nous mettons sur les genoux, nous commençons à adorer, à magnifier, à exalter, à glorifier Dieu pour ce miracle qu'il venait d'accomplir. Et là, tout à coup, Manu me dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Elle me dit, je serai toi, j'attraperai la valise qui est là. Maintenant. Car je vais mettre notre enfant au monde. Quelques heures plus tard, je vais couper le cordon ombilical de mon petit bébé. Et je promettais au Seigneur Jésus de le suivre. Après quoi, Dieu entre en scène. Dis à ton voisin, Dieu entre en scène. Je vais le voir me libérer de toute forme d'addiction, extirper cette colère qui me dévorait. Il va me retaper, me requinquer, me restaurer, me rebâtir, me recycler. Et tout allait bien, je devenais ce père tant attendu pour Manu, ce mari pour elle. Malheureusement, un jour, le malheur nous rattrape. Mon grand frère se fait assassiner. Et là, retour en arrière, commissariat, interrogatoire, morgue, pour reconnaître le corps de mon frère, qu'on a mis derrière une vitre pour les besoins de l'enquête. Mon père était absent, jamais été présent. Mon frère était tout pour moi, on n'avait que 2 années d'écart. Un jour, dans un restaurant, il a eu une altercation avec une bande de jeunes qui ont jugé bon de mettre fin à ses jours, en lui tirant 3 balles dans le corps, dont une en pleine tête. Alors quand je vois mon frère derrière cette vitre, je vois son visage. Je sens une colère monter en moi. Le soir, chez ma belle-mère, toutes mes anciennes fréquentations étaient là pour me dire « Yanis, on sait qui a tué ton frère. Il faut que tu ailles le venger. » Et j'étais tellement rongé par la colère que j'ai dit « Ok, ok. » Me voici dans cette voiture, roulant à vive allure, en vue d'aller venger mon frère. Je suis imprégné de tristesse et de colère. Et il y a un véritable combat dans ma tête. D'un côté, je pense à mon frère qu'on a assassiné. D'un autre, je pense à Manu, aux enfants, à toutes ces personnes que Dieu a utilisées à l'Église pour me reconstruire. Et je ne sais pas quel choix je dois faire. Et là, j'entends la voix de Dieu qui me dit « Mon enfant, reste avec moi. Ne va pas venger ton frère, reste avec moi. » À cet instant, j'étais convaincu que c'était la voix de Dieu, la voix de mon berger. Alors j'ai fait demi-tour pour rentrer auprès de ma famille. Quelques jours plus tard, on a procédé à son enterrement. Et j'ai porté le cercueil de mon frère. Et alors que je marchais sur ce chemin de terre, que je ressentais le poids de son corps, je pensais à cette Bible que quelqu'un lui avait offerte, dans le métro, dans la rue, je ne sais pas. Mais cette Bible, c'était son porte-bonheur. Quand il l'oubliait, il revenait la chercher à la maison. Et moi qui suis chrétien, je ne peux pas ignorer les vérités qu'elle renferme. Tout comme je ne peux pas ignorer que mon frère n'a jamais, jamais ouvert cette Bible. Pour lui, c'était juste un porte-bonheur. Et pourtant, il avait tellement besoin de Dieu. Mon frère a connu 19 fois la prison. Il était polytoxicomane, dépressif, suicidaire. Alors là, je me dis, mais c'est pas croyable. À chaque fois qu'il revenait chercher cette Bible et qu'il la mettait dans sa poche, c'est comme si Dieu frappait à la porte de son cœur pour lui dire, mon enfant, confie-moi ta vie. Donne-moi tes chaînes. Donne-moi tout ce qui te détruit. Même si ta vie n'a plus de valeur, n'a plus de sens, confie-la moi. Je vais lui redonner un sens. Tu as de la valeur à mes yeux. Et mon frère est mort avec une Bible dans la poche sans avoir donné sa vie à Jésus. Alors je suis reparti du cimetière avec cette conviction que la seule différence entre mon frère et moi se résumait à un choix, une décision. Un jour, j'étais en train d'agoniser, de mourir. Je n'étais plus rien, l'ombre de moi-même, juste un matricule dans ma cellule. Ma vie était en ruine. Et là, Dieu est venu frapper à la porte de mon cœur et m'a posé une question. Yanis, veux-tu vivre ? Veux-tu vivre ? J'aurais pu regarder à toutes ces ruines qui étaient autour de moi et me dire, c'est pas possible, je ne peux pas revivre, ma vie est détruite, elle est fichue, tout est perdu, c'est trop tard, c'est fini, c'est mort. Et j'ai préféré regarder à Dieu et lui dire, oui, je veux vivre. Et je l'ai vu totalement reconstruire ma vie. Dieu est celui qui bâtit les vies en ruines. Aujourd'hui, mon père est décédé. Ma belle-mère est décédée. Ma mère est décédée. Quant à Manu et moi, nous n'avons plus 3, mais 6 enfants. Et c'est ensemble, en famille, que nous parcourons les quartiers sensibles, les églises, les prisons, les endroits les plus sales de la terre, pour dire haut et fort qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Tout est possible à celui qui croit. Je terminerai par ce texte de Hébreux 3, verset 15, où il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Je crois que ta présence dans cette église n'est pas un hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Je crois que Dieu lui-même t'a donné rendez-vous et qu'il vient de se révéler à toi. Tu es peut-être arrivé seul, complètement démoli, détruit par la vie, à bout de force. Mais tu peux repartir debout, libre, en confiant ta vie à Jésus. La Bible dit aujourd'hui, mais l'homme il dit demain, 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 je confierai ma vie à Jésus. Demain, j'obéirai à sa parole, mais j'aimerais te dire une vérité. C'est que demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce que va enfanter ton lendemain. Demain peut devenir ton pire ennemi parce que demain peut-être n'arrivera jamais. Il n'y a pas d'âge pour dire oui à Jésus parce qu'il n'y a pas d'âge pour mourir. Ce n'est pas la foi de tes parents qui va te sauver. Ce n'est pas parce que tu as une Bible dans ton sac ou dans ta poche que tu es sauvé. Tu seras sauvé parce qu'un jour, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Sur la base de ta confession, tu seras sauvé. Une chose est certaine, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de clandestin. Si mon frère pouvait te parler aujourd'hui à ma place, il te dirait ceci. J'ai gaspillé ma vie. Je l'ai dissipée. J'ai volontairement pris la décision de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Dieu en échange de mon âme ? C'est trop tard. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pour toi qui es là ce matin, ce n'est pas trop tard. Ce matin, tu peux prendre la plus belle, la plus grande décision de ta vie. Ce matin, tu peux dire oui à Jésus Et dire oui à Jésus, c'est l'assurance de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la véritable liberté. Ce matin est un bon jour pour toi. Et je vais vous inviter à vous lever. Je dis que ce matin est un bon jour pour toi. C'est un jour de décision. Alors j'aimerais inviter ceux et celles qui n'ont pas confié leur vie à Jésus à s'avancer. J'aimerais inviter ceux et celles qui se sont éloignés du Seigneur, qui ont tourné le dos à Dieu pour vivre leur propre vie, à prendre une décision, à se repentir, à revenir dans la maison de l'Éternel. Dieu t'appelle ce matin. Il te veut ce matin tel que tu es. Jésus-Christ a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne le mettrai pas dehors. Tu peux venir au Seigneur ce matin tel que tu es. Et j'aimerais inviter également toutes les personnes qui ont des chaînes pesantes sur leur vie, des chaînes qui les écrasent. Tu n'en peux plus de souffrir à cause de quelque chose qui te dévore intérieurement. Ça peut être l'alcool, ça peut être le cannabis, ça peut être la débauche, ça peut être la colère, ça peut être la rancune, des fardeaux puissants. Je veux te demander de venir au Seigneur afin d'expérimenter la liberté. Il est celui qui libère, il est celui qui libère. Et ce matin, le Seigneur peut agir dans ta vie. Alors s'il vous plaît, peuple de Dieu, s'il vous plaît, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ne restez pas insensibles à l'appel de votre Créateur. Pendant la louange, je vous invite à vous déplacer, à venir devant. Il y a également les conseillers et les pasteurs qui vont venir devant. Et on va prier personnellement pour vous. C'est le moment le plus important de cette réunion. C'est ton face-à-face, c'est ton rendez-vous avec Dieu. Ne le manque pas, ne le loupe pas. Sors des rangs, proche-toi devant, venez devant. Tous ceux qui avaient besoin, faire un pas vers le Seigneur. Rapprochez-vous, nous allons prier.